Éco d'ici, éco d'ailleurs. Olivier Roger, Guillaume Munier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui chaque semaine se penche sur l'économie mondiale, bouleversée cette semaine, et c'est peu de le dire, par la guerre en Ukraine. Le conflit a éclaté le jeudi 24 février avec l'annonce du président russe Vladimir Poutine d'une opération militaire, et depuis, les 44 millions d'Ukrainiens vivent un drame humain d'une brutalité et d'une ampleur sans précédent en Europe depuis la guerre en ex-Yougoslavie. C'était au début des années 90. Un drame au regard duquel les répercussions économiques peuvent paraître dérisoires et pourtant le monde l'a rapidement compris. Ce conflit est en train de bousculer les pays, les marchés et de plonger des nations entières dans l'incertitude. Des producteurs de bananes africains aux consommateurs de blé ukrainien en Égypte ou en Algérie par exemple, en passant par l'Europe du gaz et du pétrole, les métaux, les mines, les banques, aucun secteur n'est à l'abri des répercussions géopolitiques engendrées par ce conflit. La crise prend des allures de guerre économique totale, pour reprendre l'expression du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, car la réaction des Occidentaux et notamment des Européens ne s'est pas fait attendre. Un blocus économique de la Russie s'est mis en place. L'Europe et les États-Unis ont réagi avec une vigueur inédite à l'invasion de l'Ukraine. Sanctions, fermeture du ciel aérien, gel des avoirs des oligarques, exclusion de certaines banques, des services de paiement mondiaux. Le système financier russe est au bord de la rupture. Ces sanctions seront-elles efficaces? L'arme économique pourra-t-elle faire plier Moscou? Le prix à payer pour l'Europe et le monde sera-t-il supportable? Voici quelques-unes des questions que pose cette crise. Avec d'ores et déjà une certitude, le monde qui émergera de la crise ukrainienne ne sera plus tout à fait celui que nous connaissons. Et pour en parler, pour évoquer ces bouleversements économiques engendrés par l'aventurisme de Vladimir Poutine, nous recevons trois experts réputés. Tout d'abord Sylvie Matelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes aussi diplômée d'un master en économie internationale, pour ne citer que celui-là. Nous sommes aussi en ligne avec Julien Vercueil. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et vous êtes économiste et spécialiste du monde post-soviétique, mais aussi des pays émergents. Enfin, en studio à mes côtés, Didier Julienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire d'un Master Économie Internationale de l'Université d'Aix-Marseille, d'un MBA à HEC. Vous êtes auditeur à l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale, et vous avez dirigé des entreprises européennes, états-uniennes et russes de métaux stratégiques. Vous êtes à présent le président de Commodities and Resources. Bienvenue à tous dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, votre émission à écouter, à partager et même à commenter, car vos avis sont toujours lus avec beaucoup d'intérêt sur RFI. Éco, en deux mots, RFI Éco, c'est le nom de notre compte Facebook et Twitter. À tout de suite.
Мною принято решение о проведении специальной военной
операции. J'ai pris la décision de lancer une opération militaire à tous ceux qui tenteraient de nous empêcher, ou pire encore, de menacer notre pays, notre peuple. Ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues.
C'était à l'aube du 24 février, les médias officiels russes diffusaient cette déclaration de Vladimir Poutine, et quelques minutes plus tard, les chars et les troupes russes commençaient à entrer en Ukraine. L'aviation débutait ses bombardements sur des cibles militaires. Cette déclaration a plongé le monde dans la stupeur, véritablement, même si la veille, les premiers soldats russes avaient déjà pénétrer dans les régions séparatistes. Et pour commencer notre émission, j'ai envie de faire un petit tour de table et de vous demander à tous ce que vous avez pensé l'instant précis où vous avez appris le début de cette opération. Sylvie Matelli, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là?
Écoutez, à l'âge que j'ai, moi, je me suis remémoré ma jeunesse et toute la période de guerre froide. Alors, Dieu merci, j'ai pas vécu toute la période de guerre froide, mais ces moments où, au fond, cette épée de Damoclès qui était l'arme atomique guidait nos vies et nous mettait dans un monde qui était vraiment le monde d'avant, et que peut-être les jeunes générations, celles qui sont nées dans les années 80 ou après les années 90, n'ont pas connu, n'ont pas vécu. Et on voit d'ailleurs, je trouve, ce décalage dans la perception des événements entre les générations.
Didier Julienne, est-ce que vous avez ressenti cette épée de Damoclès qui revenait sur nos têtes?
En ce qui me concerne, il était 4 heures du matin, j'étais debout, et je regarde la télé, je vois ce qui se passe. Et ce jour-là, enfin, je me suis dit, je ne suis pas surpris. Parce que connaissant Poutine, comme je le connais, c'est un homme qui aime surprendre. Donc quand on le regarde, il ne faut pas être surpris, jamais.
Et j'imagine, Julien Vercueil, que vous n'avez pas non plus été totalement surpris.
Ah non, je vous avoue que j'ai été surpris, moi.
Ah, vous avez été surpris. Ouais.
J'ai été surpris, c'est ce que les économistes appellent l'aveuglement au désastre, et les économistes peuvent être parfois eux-mêmes victimes de ça. Je pense que j'avais une vision un peu trop rationnelle de la situation, un peu trop rationnelle de la manière dont Vladimir Poutine conduit ses affaires. Et j'ai toujours pensé que Vladimir Poutine réagissait et ne prenait pas nécessairement des initiatives surprenantes. Les grandes interventions qu'il avait faites jusqu'à présent étaient de ce type-là. Je pensais qu'il risquait d'y avoir des provocations orchestrées par Vladimir Poutine qui amèneraient à cette décision-là, mais je ne pensais pas qu'il prendrait délibérément comme ça le parti de lancer une offensive meurtrière de son propre chef, de son propre gré, comme ça, de manière aussi brutale, contre un peuple qui est un peuple complètement
frère.
associé à la Russie.
Oui, alors je vous avoue, Julien Vercueil, je partage votre avis, j'ai été assez surpris. Si le monde est donc sidéré par cette opération, en revanche, Joe Biden, lui, n'a pas été du tout surpris puisque les Américains avaient tiré la sonnette d'alarme des semaines plus tôt.
The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine.
Voilà, l'armée russe a commencé une opération brutale contre l'Ukraine sans qu'il y ait eu de provocation, explique Joe Biden, sans justification et sans besoin. C'est une attaque préméditée, ajoute-t-il, et il accuse Vladimir Poutine d'avoir refusé toute solution négociée. Il est vrai que la veille, Américains et Européens avaient déjà adopté un premier train de sanctions. D'autres annonces ont suivi dans les 48 heures. Et pour y voir plus clair, en début d'émission, sur ce qui a été décidé par les Occidentaux, nous avons Alexis Bédu du service économie de RFI en studio. Bonjour Alexis.
Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors les Occidentaux qui ont d'abord semblé un petit peu timorés sur les sanctions se sont rapidement rattrapés et sont passés à la vitesse supérieure.
Oui, vous connaissez SWIFT, Olivier ?
Oui.
Oui, bien sûr. Tout le monde connaît SWIFT désormais, plateforme interbancaire jusqu'ici peu connue du grand public. Elle était présentée comme une arme atomique financière par l'Union européenne, mais l'exclusion de ce système ne vise finalement que 7 établissements sur les 300 que compte la Russie. Dans la liste des bannis, on ne trouve ni Sberbank, la première banque du pays, ni Gazprom Bank, le bras financier du géant des hydrocarbures, deux établissements par lesquels transite la majeure partie des paiements pour les livraisons de gaz et de pétrole. Alors là où les Occidentaux ont sans doute frappé le plus fort, c'était le week-end dernier, avec le gel des avoirs de la Banque centrale russe à l'étranger. La paralysie de ses réserves de change d'environ 100 milliards de dollars a provoqué un écroulement du rouble dès lundi matin.
Et puis un autre paquet de sanctions est venu s'ajouter à cela, Alexis, avec toujours l'objectif d'isoler économiquement la Russie.
Oui, les exportations de technologies cruciales de l'Union européenne vers la Russie sont suspendues. Alors cela touche les composants électroniques, les logiciels, les équipements de l'industrie aéronautique ou encore les pièces utiles au raffinage pétrolier. Autre mesure aux implications économiques, les espaces aériens européens et britanniques sont fermés aux avions et aux compagnies russes. Le Royaume-Uni qui a également décidé d'interdire l'accès de ses ports aux navires russes. Et puis, il y a le gel des avoirs de 500 personnalités et entités russes. Parmi ces personnalités, Vladimir Poutine et son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov. Alors concrètement, il s'agit d'une immobilisation de tous les fonds et actifs financiers. Ces Russes n'ont plus aucun accès à leurs comptes bancaires et se trouvent en incapacité de tirer profit de leurs ressources économiques. Il s'agit essentiellement de biens immobiliers, des bateaux et autres véhicules de luxe.
Merci Alexis Bédu. Sylvie Matelli, je me tourne vers vous. Est-ce que ce niveau de réaction des Occidentaux vous a étonné, vous a surpris ?
Non, pas vraiment, parce qu'on avait déjà été assez loin dans les sanctions en 2014. Ce qui m'a surpris, c'est que au fond, on aille aussi vite et de manière aussi unanime en fait. Alors en Europe, on ne prononce pas des sanctions s'il n'y a pas une unanimité, puisque les pays prononcent très rarement des sanctions. Les pays européens ou membres de l'Union européenne, on adhère au régime de sanctions européen, donc pas surprise par les sanctions en tant que telles, mais plus par la rapidité et l'unanimité autour de ces sanctions.
Et l'unanimité avec les États-Unis aussi.
avec les États-Unis, les Canadiens, les Britanniques. Et on avait déjà cette unanimité ou cette coopération en 2014. Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on regarde le train de sanctions, qu'il y a véritablement eu une coordination des différents pays pour prononcer des sanctions qui se complètent les unes les autres. Malgré tout, faut pas s'y tromper. On a quand même protégé, ça vient d'être expliqué à l'instant, on a quand même cherché à protéger certains intérêts de nos relations avec la Russie. Donc, on a encore des marges de manœuvre.
Oui, on va y revenir. Julien Vercueil, d'après ce que vous connaissez du régime russe, est-ce que Moscou s'attendait à un tel niveau de sanctions ? Est-ce que la Russie avait anticipé cette réponse très ferme des Occidentaux ?
Très clairement, non. Il y avait évidemment certaines sanctions qui avaient été anticipées. On semble découvrir aujourd'hui le système SWIFT, mais en fait, depuis 2014, cette question s'était posée. Et elle avait été traitée en disant non, on ne va pas déclencher des sanctions qui toucheraient le système SWIFT en 2014 suite à l'annexion de la Crimée. Donc il y avait cette question-là qui était déjà pendante, et donc le régime russe s'attendait à ce que ça puisse être utilisé. En revanche, ce qui n'a pas été du tout anticipé, c'est cette stratégie d'encerclement, c'est-à-dire le fait que du point de vue économique, on ne s'attaque pas uniquement à des flux, mais également à des stocks, c'est-à-dire que l'on empêche la Banque centrale de Russie d'utiliser une partie de ses avoirs en devises pour jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Et ça a joué un rôle de déflagration sur le système financier russe, qui, combiné aux sanctions SWIFT et à la difficulté maintenant qu'ont les banques à accéder aux marchés internationaux de capitaux, a conduit à la situation actuelle qui n'avait pas été anticipée, encore une fois, par les autorités.
Didier, Julienne, quelque chose a marqué l'opinion ces derniers jours, c'est le fait que les oligarques russes ont été les premiers sanctionnés, du moins certains des oligarques réputés proches du système politique russe. Est-ce qu'à votre avis, vous qui connaissez ces oligarques, qui avez travaillé avec certains d'entre eux, est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que ça peut donner des résultats ?
Alors, il faut faire la différence entre les oligarques officiels, c'est-à-dire les fonctionnaires, les oligarques qui viennent du complexe militaire, et puis les oligarques qui viennent du complexe industriel. Alors moi, je m'intéresse en particulier au troisième, industriel, et parmi les oligarques industriels qui sont sanctionnés, j'en vois au moins deux, mais j'en vois pas beaucoup plus. Il y a en fin de compte assez peu d'oligarques industriels qui sont sanctionnés. Lorsque vous êtes sanctionné, deux ou trois, les sociétés dont vous êtes propriétaire, que ce soit dans l'acier, dans les banques ou autre part, sont sanctionnées. Donc on ne peut plus exporter.
Mais le sens de la question était, est-ce que ces oligarques peuvent demain aller voir Poutine ?
Justement, j'y viens. Et je remarque que ces oligarques, étant assez peu nombreux, ils ne font pas grand-chose. Ils ne feront probablement rien tant qu'ils ne seront pas liés d'une manière ou d'une autre avec les oligarques qui viennent du militaire et des services.
Donc vous voulez dire qu'il aurait aussi fallu frapper ces oligarques qui viennent du militaire et des services ?
Beaucoup plus. Il faut vraiment avoir une troupe d'oligarques en face de soi qui soit sanctionnée pour qu'ils puissent avoir une réaction. Ils sont encore trop individuels, trop individualistes si je puis dire.
Alors le premier effet de cette attaque de la Russie sur l'Ukraine a été finalement d'unir les Européens et le monde occidental. Et ces Occidentaux utilisent désormais un langage presque aussi ferme que celui du locataire du Kremlin. Exemple avec Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie.
Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Et on en voit déjà les effets. Le rouble s'est effondré de 30%. Et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons voir des queues de Russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques. Et puis la Banque centrale n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt de 10 à 20%, ce qui veut dire que les entreprises ne pourront pas emprunter, sauf à des taux très élevés, pour investir et pour développer l'économie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Des propos assez forts de Bruno Le Maire. Il est revenu d'ailleurs sur ces mots après la mise en garde de Dmitri Medvedev, l'actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie, qui a prévenu que les guerres économiques pouvaient parfois se transformer en guerre tout court. Mais Julien Vercueil, je me tourne vers vous. Est-ce une guerre économique qui vient réellement de débuter avec la Russie ?
Je pense qu'il faut faire attention au choix des mots et que le terme de sanction est un terme qui doit être conservé. Pourquoi ? Parce que la guerre, c'est un vocabulaire militaire. La Russie est condamnée de manière quasi unanime aux Nations Unies parce qu'elle est en guerre et parce qu'elle a déclenché une guerre militaire sur le territoire d'un autre pays souverain. La France n'a déclaré la guerre à personne, d'une part. Donc, par contre, la France fait partie des pays qui décident de sanctionner, car les sanctions sont les réponses les plus fermes que les démocraties peuvent réaliser dans ce cas de figure particulier d'un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Donc il faut choisir ces mots pour éviter d'être mal compris. Et le deuxième élément qui est très important, c'est que nous ne sommes pas en guerre ni contre la Russie, ni contre les Russes. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important de ne pas se mettre dans une situation où la propagande russe pourrait unir le peuple russe avec son dictateur en le présentant comme agressé, ce qui est quelque chose qui fait le jeu, en fait, de la propagande russe. Donc, nous appliquons des sanctions, nous essayons de faire ce que nous disons de manière la plus ferme possible, mais en restant dans les limites de ce qui relève de notre doctrine et de la politique générale des pays occidentaux face à un pays qui, lui, est en guerre.
Didier Julienne, je voulais vous poser une question très précise. Est-ce qu'à votre avis, le système financier russe est au bord de l'effondrement ? Est-ce que ces sanctions, notamment sur la banque centrale auxquelles faisait référence Sylvie Matelli, peuvent avoir un effet décisif ?
Je vais juste revenir sur la question précédente, une Allez-y. Minute. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Vercueil. Lorsque IKEA, par exemple, va fermer et qu'il va licencier 15 000 personnes, ces 15 000 personnes, on va leur dire, vous voyez, vous êtes licencié parce que l'Occident ne nous aime pas, ou l'Occident nous fait la guerre, ou l'Occident ceci. Et donc, il faut que ces gens-là comprennent que lorsqu'ils sont licenciés, c'est pas parce qu'on leur veut du mal, loin de là, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose en Ukraine. Et il est assez facile de retourner les esprits là-bas, parce que je le vois moi-même avec les gens que je connais, ils ont une information extrêmement limitée, certains d'entre eux en tout cas. Et donc, s'ils se retrouvent au chômage, ils vont dire, bah, finalement, nous sommes avec Poutine parce que c'est lui notre sauveur et c'est lui qui va nous sortir de là.
Alors, quelle est la solution ?
Eh bien, la solution, c'est justement de ne pas employer les mots qu'a employé le ministre de l'économie. C'est totalement contre-productif vis-à-vis des populations russes qui seront, et qui, des populations russes qui sont et qui seront les seules à même à pouvoir finir, terminer, je ne sais pas quel mot employer, la présidence de Poutine, qui un jour, il faudra bien qu'il s'en aille.
Alors Sylvie Matelli, on le sait, les Occidentaux, et on a écouté Bruno Le Maire, estiment qu'il faut mettre à genoux l'économie russe pour que les sanctions puissent avoir un effet. Est-ce que vous pensez, comme Didier Julienne, que c'est prendre un énorme risque avec l'opinion publique russe et finalement avec la résolution finale de cette crise ?
Tout à fait, hein. C'est un phénomène bien connu. Quand vous imposez des sanctions, en général, c'est ce qu'on appelle le ralliement autour du drapeau. En général, ça renforce le sentiment patriotique des populations. Et on l'a vu déjà en 2014, où au fond, après 2014, Vladimir Poutine a été plus populaire qu'il ne l'était par le passé. Ce qui est quand même très surprenant si on reprend l'idée évoquée au début par Julien Vercueil de rationalité. Ça paraît pas très rationnel, en fait, hein. Et pourtant, ça a été le cas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut manier avec prudence. Alors, en général, pour contourner cet obstacle-là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de prononcer des sanctions multilatérales, c'est-à-dire au sein des Nations Unies, sauf qu'aux Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui prononce ces sanctions, et avec 5 pays qui ont un droit de veto sur ces décisions, dont la Russie, bien évidemment. Donc, c'est un vrai risque, et je crois qu'il faut, comme l'a dit Didier Julienne, être très, très prudent sur le vocabulaire qu'on emploie. Et puis, moi, ce que je vois et qui m'étonne toujours pour avoir beaucoup travaillé sur les régimes de sanctions, c'est que les sanctions ou les régimes de sanctions qui ont pu pousser un dirigeant à changer d'attitude, ce sont souvent des sanctions pour lesquelles on a prévu une porte de sortie, pour lesquelles il y a des incitations, une sorte d'agenda de lever des sanctions si des actions sont prises, si des décisions sont prises par le pays et les dirigeants qui sont sanctionnés.
Une chronologie des sanctions. d'évolution et une chronologie de retour à la normalité, donc.
En fait, ce que je suis en train de vous dire, les Japonais sont très habitués de ce fait-là, ils l'ont pratiqué avec la Birmanie, par exemple, c'est que quand vous sanctionnez, vous devez systématiquement expliquer dans quel type de situation, dans quelles conditions vous allez lever ces sanctions ou assouplir ces sanctions. Et ça fonctionne, je dis pas que ça fonctionne tout le temps, mais c'est beaucoup plus efficace que les sanctions en tant que telles qui sont posées et on ne sait pas à quel moment elles seront levées. Et je pense que pour la Russie, c'est probablement l'erreur qu'on a fait à partir de 2014 où on n'a donné aucune visibilité sur l'assouplissement des sanctions et au fond, aucune possibilité de négocier avec Vladimir Poutine et avec la Russie post-2014 sur la sécurité européenne ou autre en réalité.
Alors, Julien Vercueil, 2014 est une date décisive dans ce qui s'est passé ces 15 dernières années ou ces 10 dernières années dans la région. Les Russes se sont-ils, après l'invasion de la Crimée et les premières sanctions européennes et occidentales, les Russes se sont-ils préparés? Ont-ils préparé leur économie à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que l'appareil économique s'est modernisé en Russie jusqu'à permettre aujourd'hui d'absorber le choc des sanctions?
Évidemment, c'est très très incomplet cette modernisation, mais l'intention était ça. L'intention après 2014, et d'ailleurs c'est une intention qui remonte à 2011 en fait, hein, la politique dite de substitution aux importations qui a été mise en place par Vladimir Poutine a été décidée en 2011 comme une réponse à l'exposition de l'économie russe à la crise des subprimes de 2008-2009 qui avait engendré une crise financière mondiale et dont la Russie se sentait détachée, immunisée d'une certaine manière. C'était même le vocabulaire qui avait été employé par Dmitri Medvedev à l'époque. Mais le fait est que la Russie a été très touchée par cette crise, par ses conséquences indirectes. Et donc, l'une des réponses que Vladimir Poutine a essayé d'apporter, c'est essayer de substituer la production nationale aux importations.
Et ça a fonctionné?
Et alors, non, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné, c'est le fait que ça a permis à des entreprises russes à l'abri de dispositions légales d'engranger des surprofits sur un certain nombre de commandes publiques, mais sans forcément se substituer en termes de qualité à ce qui avait été obtenu auparavant par ces mêmes institutions publiques en faisant appel à des fournisseurs étrangers. Donc, par contre, en 2014, ce qui s'est passé, c'est les choses un peu différentes. C'est que à partir de 2014, il y a eu comme contre-sanction de la part de la Russie un embargo sur les produits agricoles en provenance des pays qui avaient sanctionné la Russie. Et cet embargo a entraîné d'abord une redirection des importations de produits agricoles, mais aussi une incitation pour les entreprises étrangères de venir s'implanter directement en Russie pour essayer de produire localement de façon à pouvoir développer la production agricole directement et ne pas avoir l'exporter vers la Russie. Alors ça a donné quelques résultats assez mitigés, mais ça a quand même donné certains résultats. Mais ce sont des résultats qui se sont limités à certaines activités d'agroalimentaire. Par exemple, on voit que dans l'élevage, on a eu des résultats tout à fait positifs sur l'élevage du porc, par exemple. Mais le dernier point, c'est que tout ça s'est fait dans un contexte de dévaluation du rouble. Le rouble a perdu une grande partie de sa valeur à partir de 2015-2016. Et la dévaluation du rouble incite également les investisseurs étrangers à venir plutôt sur place s'investir plutôt que d'essayer d'exporter leurs produits parce que leurs produits coûtent cher et que la production coûte moins cher en étant réalisée sur place. Donc, vous voyez, c'est un ensemble complexe de phénomènes qui ont localisé sur le territoire de la Russie certaines productions tout en ne limitant pas la dépendance de la Russie à ses relations économiques extérieures puisque la structure des importations et des exportations est restée la même.
Oui. Alors, une russification incomplète de l'économie depuis 2011 et puis surtout une présence des entreprises internationales et étrangères très importante. Si l'on pense par exemple à Renault, qui est probablement l'un des plus gros employeurs en Russie avec sa filiale locale Avtovaz, je crois qu'il y a à peu près 140 000 employés. Beaucoup de compagnies étrangères, beaucoup de sociétés comme Apple par exemple ou dans l'aéronautique ont décidé de geler leurs activités ou de les suspendre sur le territoire russe pour répondre aux sanctions occidentales. Les Russes, envers les Occidentaux, soufflent le chaud et le froid. Ils tiennent envers les investisseurs un discours menaçant et prudent. Écoutez ce qu'en disait cette semaine le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.
Nous considérons toujours les entreprises étrangères comme des partenaires potentiels. Dans la situation actuelle, avec les sanctions, les entrepreneurs étrangers ne sont pas guidés seulement par des facteurs économiques. Ils peuvent prendre des décisions sous pression politique. Je suis sûr que la pression finira par s'arrêter. Et ceux qui gagneront à la fin, ce sont ceux qui n'auront pas succombé au slogan des politiciens étrangers et stoppé leurs projets dans notre pays. La pratique l'a démontré. Il est facile de quitter un marché. Il est beaucoup plus difficile de revenir quand la place a été prise par les concurrents.
Didier Julien, est-ce que les Russes ont les moyens de prendre des contre-sanctions, d'exclure certaines entreprises, de nationaliser certains groupes qui appartiennent à des entreprises étrangères? On a vu que des sidérurgistes ont déjà, par exemple, annoncé ne plus vouloir livrer l'Europe.
On est dans une économie de guerre, tout du moins en Russie. Et toutes les mesures sont possibles, y compris une nationalisation, pourquoi pas. Moi, ce que je retiens à ce stade, c'est que les sanctions, comme je vous disais tout à l'heure, elles couvrent, en fin de compte, une partie assez limitée des individus qui sont propriétaires d'industries. Elles sont avant tout d'État à d'État, la Banque centrale. Et je remarque que les entreprises que je connais là-bas peuvent continuer d'exporter. D'ailleurs, il ne me semble pas que l'Allemagne ait coupé le gaz ou que de son côté...
Que la Russie ait coupé le gaz.
Que l'Allemagne refuse d'avoir des livraisons de gaz. Il ne me semble pas que la Russie ait coupé le gaz non plus, d'ailleurs. Mais je remarque surtout qu'il y a des entreprises que j'ai interrogées, d'ailleurs, et je dis, mais comment est-ce que vous faites pour exporter? Il me dit, mais écoutez, ce n'est pas difficile. Il y a beaucoup de pays qui sont indépendants, qui ne fonctionnent pas dans les sanctions. Et puis, il ne faut pas oublier que les banques qui sont sanctionnées, il n'y en a que 7 sur 1500 en Russie.
Donc, il y a 300 qui travaillent avec SWIFT.
D'accord. Et donc, il y a quand même encore de la marge pour recevoir énormément d'argent en contrepartie des exportations, donc de dollars, ou d'autres monnaies, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser également aux crypto-monnaies. Et donc, tout ça me fait dire que les sanctions... D'accord, il y a encore, on en parle beaucoup, mais il me semble que l'éventail n'est pas encore complet pour avoir vraiment un impact sur l'économie des entreprises de tous les jours.
Julien Vercueil, vous êtes d'accord avec l'analyse de Didier Julien? La Russie dépend à 60% de ses recettes extérieures du pétrole et du gaz. Le pétrole et le gaz, pour l'instant, sont assez peu impactés par les sanctions. Finalement, est-ce que ces sanctions vont avoir un effet sur les finances de l'État russe?
Oui, bien sûr qu'elles vont avoir un effet sur les finances de l'État russe. Elles vont avoir un effet sur les finances de l'État russe par plusieurs canaux. Premier canal, le canal donc tout simplement financier. C'est-à-dire que à partir du moment où les banques et le système financier dévissent, et ça c'est le cas, il y a une fuite devant le rouble, enfin on a vraiment toutes les prémices d'une crise financière importante qui sont en place, là il y a un risque fort que des opérations économiques non financières, de production, d'investissement, de consommation, etc., ne soient plus possibles. Ou en tout cas ne soit plus possible dans les conditions d'avant. Et donc ça va entraîner une réduction du volume d'activité, tout simplement. Et donc cette réduction du volume d'activité va avoir un impact sur les finances publiques, nécessairement. À la fois sur les recettes, il y aura moins de recettes, et à la fois sur les dépenses, il va falloir faire face à toutes les demandes qui commencent déjà à affluer des acteurs en difficulté. Donc le problème financier aujourd'hui appelle des problèmes économiques demain. Ça, c'est sûr. Le deuxième élément, c'est la capacité, effectivement, de rapatrier des recettes d'exportation de matières premières. Pour l'instant, effectivement, les deux banques qui sont principalement impliquées dans ces opérations, c'est-à-dire la Sberbank et Gazprom Bank, sont épargnées des sanctions concernant SWIFT. Donc, ces flux-là peuvent continuer d'exister. Maintenant, il faut pas non plus sous-estimer l'effet un peu de gel général que la guerre en elle-même fait sur l'ensemble des projets des entreprises, l'ensemble des projets des ménages eux-mêmes. Ça, c'est un effet qui est psychologique, qui est un effet qui touche chaque personne, chaque décideur, qui se demande de quoi sera fait la suite. Et ça, c'est les conséquences de la guerre et non pas les conséquences des sanctions. Et ça a eu un impact en 2014 très important, alors que les sanctions étaient moins importantes. Et ça aura un impact encore plus important aujourd'hui, parce que la guerre est de plus grande ampleur. Une guerre, c'est une destruction de richesses. C'est une destruction de richesses sur le territoire de l'Ukraine, évidemment, mais c'est aussi une destruction de richesses parce qu'il y a un certain nombre d'opérations qui n'ont pas lieu, alors qu'elles auraient eu lieu s'il n'y avait pas un environnement de guerre. Et ça, c'est la Russie qui est touchée. Donc, on a cet élément-là. Et puis, enfin, il y a un troisième élément qui est la chute du rouble entraîne une hausse de l'inflation. Cette inflation va rogner sur le pouvoir d'achat des ménages. Les ménages russes eux-mêmes vont donc réduire leurs dépenses. Et cette réduction de dépenses, c'est le principal moteur de l'économie russe qui va se gripper. Donc, on va avoir un effet de second tour dans les mois qui viennent, qui sera une contraction progressive de la demande, alors qu'on était en phase de croissance économique en Russie avant janvier.
Alors, Sylvie Matelli, avant de vous poser une question justement sur l'opinion publique russe et ses problèmes de pouvoir d'achat, je voudrais qu'on écoute d'abord un témoignage recueilli par notre envoyé spécial à Moscou, Anissa El-Jabri. Il s'agit de Daniil, un jeune développeur de jeux vidéo, et les sanctions, on peut le dire, l'inquiètent beaucoup.
Je suis étudiant et concepteur de jeux vidéo, et si les prix des produits informatiques augmente, alors peu de gens vont pouvoir se les offrir. Quand j'ai appris que nos troupes étaient entrées dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, j'ai acheté un téléphone. Je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas à la frontière de ces territoires, qu'ils iraient plus loin. Je savais que ça arriverait. J'ai acheté ce téléphone pour 27 000 roubles. Maintenant, il en coûte 36 000 roubles. Mon ami Artyom, lui, a acheté un iPhone avant la hausse des prix et avant qu'Apple n'interdise les importations. Un autre de mes amis s'est dépêché d'acheter un PC juste avant qu'hier, Intel arrête les ventes en Russie.
Sylvie Matelli, est-ce que l'opinion publique russe compte ? Est-ce qu'elle peut peser sur Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il écoute même son opinion publique ?
Très clairement, elle peut peser si il y a des inquiétudes qui sont massives et qui sont exprimées par l'opinion publique. Au-delà de ça, si cette inquiétude n'est pas massive et si l'opinion publique s'exprime pas de manière unie contre cette guerre, il est clair et net que ça aura assez peu d'impact. On voit des manifestations aujourd'hui pour la paix en Russie. L'heure est plutôt à la répression et aux menaces contre ces personnes qui manifestent. Donc pour l'instant, on voit pas bien une opinion publique s'élever contre ce qui est en train de se passer. Surtout que, comme le rappelait Didier Julien au début de l'émission, c'est une opinion publique qui a accès à l'information qu'on veut bien lui donner. Et donc à une information qui est forcément une propagande. Qui plus est, cette opinion publique, elle a l'habitude des difficultés économiques. Je crois qu'on peut dire que depuis même bien avant la fin de la guerre froide, le pouvoir d'achat des ménages est affecté par toute crise, qu'elle soit économique ou au-delà. D'ailleurs, ça fait des décennies que les Russes sont habitués à avoir des périodes où la situation n'est pas facile, où leur pouvoir d'achat diminue, où ils ont peu accès à certaines consommations. Donc, c'est difficile de se prononcer aujourd'hui et de savoir comment la situation va évoluer. Peut-être que la différence avec le passé, c'est l'accès que peuvent avoir une partie des Russes, et en particulier la jeunesse, à des informations venues d'ailleurs via les réseaux sociaux. Pour revenir peut-être sur les effets économiques de cette guerre et de ces sanctions, faut pas oublier que la baisse de la demande, ça va également toucher des entreprises étrangères, ça va également avoir des effets rebonds sur nos propres économies, puisque si la Russie exporte beaucoup d'énergie et de matières premières, elle importe aussi beaucoup de biens de consommation courante. Donc l'inflation, et la baisse du rouble, elle va peser aussi sur cette demande-là, cette demande de produits étrangers, et elle aura un impact très net sur nos économies. Je suis aussi étonnée, pour finir, moi, par le fait que, pour l'instant, Vladimir Poutine ait assez peu réagi aux sanctions et prononcé, à part les interdictions du territoire, et prononcé assez peu de sanctions. Est-ce que ça signifie qu'il est coincé et qu'il ne veut pas empirer la situation en Russie, ou est-ce que ça signifie qu'il prépare des sanctions massives qu'il annoncera dans les semaines qui viennent ? J'en ai aucune idée à ce stade.
Alors cette crise russo-ukrainienne inquiète les marchés des matières premières et notamment les matières premières agricoles. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, l'Ukraine est le quatrième. Si l'on prend par exemple l'huile de tournesol, l'Ukraine est tout bonnement le premier exportateur mondial. Maïs, blé, tournesol mais aussi colza et j'en passe. Les cours flambent dans les bourses du monde entier depuis quelques jours. Faut-il craindre une pénurie de blé? Je vous propose d'écouter l'avis d'un gros céréalier français. Il est de la région dijonnaise, Philippe Dubief, président du comité communication d'Intercéréales, c'est la filière céréalière française. Il répond à Alexis Bédu qui était cette semaine au Salon de l'agriculture à Paris.
En France, en Europe, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème de pénurie ni rien. En revanche, la plupart des pays qui importent des céréales de Russie et d'Ukraine seront très fortement impactés. Ça veut dire, je prends un exemple comme l'Égypte. L'Égypte, premier importateur mondial de céréales au monde, de blé au monde. Nous, si on mange par exemple à peine 100 grammes de pain par habitant et par jour, là-bas c'est 400 grammes. Et donc là, vraiment, il va y avoir des soucis d'approvisionnement. Ils vont plus fortement manquer et c'est des pays qui sont dépendants des importations. Les céréales sont importantes dans l'alimentation, l'alimentation est importante dans la stabilité d'un pays.
Didier Julien, les Égyptiens auront-ils toujours demain leurs 400 grammes, comme le disait Philippe Dubief, de pain ou de semoule de blé dans leur assiette? Faut-il s'attendre à une rupture de l'approvisionnement en blé des pays du Moyen-Orient par exemple?
L'objectif de la Russie, l'objectif de Poutine, c'est avant tout de normaliser le plus vite possible la situation de l'après-guerre. Il est clair dans mon esprit que la Russie va malheureusement s'emparer de l'Ukraine. Son objectif, c'est de détruire le moins de choses possible. Son objectif, c'est de reprendre les exportations comme par le passé. C'est de remettre en route toutes les usines, de refaire des récoltes, de pouvoir exporter les stocks de grains et donc de pouvoir les exporter le plus vite possible vers l'Afrique, vers l'Égypte, comme vous le disiez. Est-ce qu'ils vont réussir ça? Alors ça pose une question, comment est-ce que la population ukrainienne va-t-elle coopérer avec, entre guillemets, l'envahisseur, avec les gens qui les ont envoyés? Est-ce qu'ils vont se remettre au travail? Est-ce qu'ils vont accepter de continuer donc d'exporter leurs produits, oui ou non? Sachant que, comme le disait l'intervenant tout à l'heure à l'antenne,
Philippe Dubief,
voilà, oui, exactement, la France ou les autres pays producteurs de blé, par exemple, puisqu'on parle du blé pour l'Égypte ou pour l'Afrique, ne pourront pas subvenir ou ne pourront pas remplacer 30% du marché mondial des exportations de blé. Si la Russie et l'Ukraine s'arrêtaient d'exporter ces 30%, il est clair que nous aurions de nouveau des problèmes en Afrique du Nord, de nouveau un printemps arabe, puisque ce printemps arabe, à l'époque, avait commencé à cause d'une envolée des prix des matières premières.
Donc, des réactions en chaîne.
Oui, oui,
c'est la question que je voulais poser à Julien Vercueil. Julien Vercueil, est-ce que l'on peut d'ores et déjà dire que les cargaisons de blé qui sont stockées dans les ports ukrainiens aujourd'hui, et je crois qu'il y a notamment 6 millions de tonnes de blé en attente pour l'Égypte, est-ce que ces cargaisons sont perdues?
Ce qui est certain, c'est que les autorités ukrainiennes doivent essayer à tout prix de faire partir ces cargaisons. Il y a peut-être une question d'approvisionnement de la population ukrainienne elle-même, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème de stock en Ukraine. Il y a sans doute des problèmes logistiques, par contre, en Ukraine qui se posent. Et donc, sur la question des ports, si le port est sous contrôle russe ou menacé d'être pris en Russie, évidemment, il risque d'avoir une saisie par la Russie de ces cargaisons. Je pense que la Russie n'arrêtera pas du tout ses exportations de blé. Au contraire, elle va les intensifier parce qu'elle y a intérêt. Elle a intérêt à trouver par tous les moyens des recettes en devises qui lui manquent aujourd'hui. En revanche, la question se pose de savoir si l'économie de l'Ukraine est suffisamment
résiliente,
épargnée, résiliente dans une situation de guerre pour pouvoir continuer d'organiser des exportations de blé vers des pays tiers. Ça touche à la fois la capacité de l'Ukraine à continuer d'engranger des recettes en devises, mais bon, elle peut compter sur le soutien des Européens et des Occidentaux en général pour continuer à l'approvisionner en financement. Mais ça pose aussi la question de sa capacité à contrôler la logistique en situation d'agression. Et ça, je pense que c'est une question qui doit être extrêmement difficile en ce moment.
Alors justement, Sylvie Matelli, je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'à votre avis, on peut imaginer Vladimir Poutine utiliser utilisant l'arme du blé, l'arme de la faim, non pas tellement avec l'Europe ou l'Amérique, mais avec l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, en échange de son soutien diplomatique, de nouvelles cargaisons, une reprise des livraisons, un contrôle des prix, en échange d'un soutien diplomatique aux Nations Unies, par exemple.
Tout est possible, et quand il est question d'alimentation et donc de crise de la faim, avec toutes les conséquences qui ont été citées tout à l'heure par Didier Julienne sur cette région, tout est imaginable. Après, je reviendrai sur ce que vient de dire Julien Vercueil, c'est que la Russie a quand même besoin aujourd'hui de vendre et de faire rentrer des devises ou de faire rentrer de l'argent. Donc, l'arbitrage va se faire à ce niveau-là. C'est est-ce qu'au fond, on fait pression et on risque au risque de se priver de certaines ressources, ou est-ce qu'on livre quoi qu'il en coûte parce qu'on a vraiment besoin de vendre ces produits. Ça, c'est une vraie question. Et c'est une question qui va très certainement se poser dans les mois qui viennent. Juste pour revenir sur le blé, je suis pas sûre que à ce stade les cargaisons soient perdues. Hein. Le blé est pas une denrée périssable, donc tant que les cargaisons sont pas détruites, il y a aucune raison qu'elles puissent pas être acheminées dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent.
Didier Julienne, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le blé, ça n'est pas périssable. Aucun bateau aujourd'hui ne peut s'approcher des ports d'Odessa, de Mariupol ou autre, parce qu'il serait immédiatement bloqué par la marine russe qui les gère. Mais demain, dès que ces ports seront totalement sous l'emprise des marins russes et que la situation sera beaucoup plus paisible, il est bien entendu et bien évidemment certain que la Russie n'a qu'un seul but, comme je le disais tout à l'heure, c'est de normaliser la situation, de recommencer à exporter de façon à dire à l'ensemble du monde, vous voyez, finalement, tout se passe bien.
Julien Vercueil, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on n'assisterait pas un petit peu aujourd'hui au retour des non-alignés, quand on a vu la position notamment de certains États africains à l'Assemblée générale des Nations Unies cette semaine? Il semblerait quand même que les relations commerciales que Moscou a nouées avec certains pays aient pu jouer sur le plan diplomatique. Va-t-on assister à nouveau à un axe africano-russe?
Difficile à dire, tous les pays africains ne se sont pas retournés de cette manière-là. Je crois qu'il n'y a pas que des relations commerciales, il y a aussi des pressions diplomatiques, sécuritaires. Tout dépend de la manière dont le régime local est infiltré et éventuellement sous pression. Tout dépend aussi de sa volonté d'éventuellement se retourner vers d'autres interlocuteurs que les Russes à l'avenir. Ils sont dans une position d'attente. Ils se sont abstenus, ils n'ont pas voté contre comme la Corée du Nord, la Syrie l'ont fait par exemple. Ils sont dans une situation où ils essaient de ménager la chèvre et le chou parce qu'ils sont dans la situation du faible fort.
Sylvie Matelli, on le dit depuis quelques temps, et Didier Julien en a parlé tout à l'heure, la Chine entretient des relations très proches avec la Russie. Elle a surinvesti ces derniers temps l'Afrique. Est-ce qu'elle pourrait réorienter une partie de ses investissements colossaux effectués dans les États africains depuis une dizaine d'années vers la Russie, notamment pour remplacer ses occidentaux et leurs technologies?
Alors, la Chine est dans une situation extrêmement délicate parce que, au fond, elle a quand même aussi des intérêts économiques avec les Occidentaux, et qu'on la sent bien, on la sent bien gênée, et elle a bien perçu les limites de son rapprochement avec la Russie face à ces événements-là. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile à dire parce que, déjà, elle garde des intérêts en Afrique, et donc on la voit mal se retirer. Et se priver de ces choses-là. Et puis, deuxièmement, la relation à la Russie se révèle plus compliquée qu'elle n'avait pu imaginer par le passé.
Dans quel sens ?
Pour juste... plus compliqué parce que au fond elle avait misé sur un rapprochement avec la Russie, sur une sorte d'alliance avec la Russie contre les Occidentaux, et elle partageait de ce point de vue-là un discours assez similaire à l'encontre des Occidentaux, un jugement assez sévère contre les États-Unis ou les pays européens sur le plan géopolitique et politique. Néanmoins, la Chine garde d'énormes intérêts dans son commerce, dans ses relations économiques avec les Européens ou avec les États-Unis, et donc elle est un petit peu gênée aux entournures de ce rapprochement. On a vu le même type de séquence et je voulais justement revenir sur, vous avez parlé tout à l'heure des pays africains et de ce retour des non-alignés. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la posture des BRICS aujourd'hui.
Afrique du Sud notamment.
Tout à fait, Afrique du Sud notamment, mais on a vu aussi l'Inde ou le Brésil ces derniers jours, qui sans véritablement soutenir nettement la Russie, ne condamnent absolument pas et sont très très prudents à ne pas condamner directement ce pays. Et en fait, ça rappelle, je crois que c'était en 2010, quand c'est la Russie qui a plutôt cherché en fait à fédérer ces BRICS, ces pays autour de cette organisation BRICS qui n'existait pas à l'époque, qui n'était qu'un concept en fait, hein, et un concept financier d'ailleurs. On avait vu une Russie qui était vent debout contre les Occidentaux et qui avait expliqué à ses partenaires il nous faut nous rapprocher, il nous faut nous souder parce que nous sommes les seuls à pouvoir peser et à pouvoir proposer des alternatives à ces dig-dag des pays occidentaux. Et à l'époque, la Chine avait essayé de modérer en expliquant que ce qui l'intéressait dans les BRICS, c'était les relations commerciales qu'elle pouvait nouer avec ces pays. On est à la sortie de la crise de 2008, les marchés européens, les marchés américains sont moins porteurs pour la Chine et finalement elle y voit la possibilité de nouveaux débouchés. Donc on avait plutôt, la Russie s'était trouvée plutôt isolée dans ce discours anti-occidental, ça a été moins le cas par la suite, et on s'aperçoit que sans que le discours soit véritablement assumé par les BRICS, on est quand même plutôt indulgent avec ce qui vient de se passer, avec ce que vient de faire la Russie.
Julien Vercueil, nous parlons de la Chine. Est-ce que la Russie aurait un intérêt stratégique à long terme à voir accroître sa dépendance envers la Chine, si l'on peut parler de dépendance ?
Il y a toujours eu une relation délicate entre la Russie et la Chine. C'est un fait que Xi Jinping et Vladimir Poutine s'entendent très bien personnellement, mais globalement, il y a une méfiance réciproque qui n'est pas encore surmontée.
Qui est multiséculaire, on va dire.
Et multiséculaire et qui n'est pas surmontée. Je me rappelle encore de discussions avec des diplomates russes à Paris il n'y a pas très longtemps, qui me disaient « parlez-nous de la menace chinoise ». Voilà, il nous disait comme ça. Donc, on était sur cette relation de la Russie à la Chine. Donc, ça s'est par exemple illustré en 2014, lorsque la Russie a dû se retourner vers la Chine pour sécuriser un débouché à son gaz, au moment où commençaient à se dessiner les difficultés de relation avec avec l'Union européenne, dont elle était trop dépendante du point de vue de ses exportations de gaz. Le deal a été finalement signé, mais il a été signé dans des conditions qui étaient beaucoup moins favorables que la Russie ne l'aurait espéré et qui ont été conduites par le fait que la Russie était un peu acculée et était obligée de négocier cet accord d'approvisionnement gazier. Ça, c'est le premier élément. La relation avec la Chine est délicate. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un problème de volume dans tout ça. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, et c'est quand même quelque chose qui dure depuis un siècle, les relations avec l'Union européenne et l'Europe sont nettement d'un ordre de grandeur différent entre la Russie et l'Union européenne si on les compare avec celle de la Chine. C'est-à-dire que si on s'intéresse à l'intérêt que la Russie aurait de se retourner vers la Chine, alors prenons le point de vue de la Russie et regardons les relations avec l'Union européenne, c'est 40% de son commerce extérieur, avec la Chine c'est 17-18% et beaucoup plus en termes de croissance. Hein, la croissance avec la Chine est plus importante qu'avec l'Union européenne, mais c'est quand même un ordre de grandeur différent. Et c'est la même chose pour le gaz.
Excusez-moi de vous interrompre, Julien Vercueil, l'émission se termine. Didier Julien, en un mot très rapidement, la Chine est-elle une solution pour la Russie ?
Je pense que Chine-Russie, il y a trois choses. Premièrement, il faut regarder le temps long. La Russie dépendante de la Chine pendant 10-15 ans, ça ne gêne personne. Deuxièmement, la Chine va prendre la stratégie de l'éventail, c'est-à-dire elle va bénéficier des exportations russes sans le dire, en le cachant, et elle va continuer à commercer avec l'Europe et les USA. Et puis troisièmement, la Chine est très prudente, parce qu'il y a Taïwan, c'est l'Ukraine de la Chine. La Chine regarde comment ça se passe, et elle ne voudrait surtout pas envahir Taïwan et en même temps avoir des sanctions. Donc elle est extrêmement prudente sur tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, mais elle accueillera avec grand plaisir toutes les exportations russes qui se détourneront de l'Occident pour aller vers la Chine.
Eh bien, c'est le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Je remercie encore Sylvie Matelli de l'IRIS, Julien Vercueil de l'INALCO et Didier Julien qui était en studio à mes côtés, consultant et stratège en matières premières. Merci aussi à Guillaume Munier qui a réalisé cette émission, à Alexis Bédu et Anissa El Jabri de RFI pour leur participation. La semaine prochaine, vous retrouverez Bruno Faure aux commandes d'Echo d'ici, Echo d'ailleurs. Et n'oubliez pas, RFI Echo en deux mots sur les réseaux sociaux pour réagir et poursuivre la discussion. Bon week-end à tous. Portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Bonjour, c'est